Ce sont de drôles de types qui vivent de leur plume ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés quand ils marchent dessus, qu'ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'âme. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
À 18h, à la maison de l'Occitanie à Toulouse, se tenait un des derniers cafés Trobar que l'on devait à Alem Chiru Garcia, qui avait eu la gentillesse de faire un dossier administratif de manière à avoir des subsides nécessaires pour recevoir quelques invités pour promouvoir la poésie. Ce café Trobar était consacré à un hommage à Thierry Metz, en présence de Françoise Metz. Il y avait également la présentation de la revue Diérèse et des lectures avec la comédienne toulousaine Danielle Catala et les poètes Isabelle Lévesque et Daniel Martinez, Daniel Martinez étant le directeur de cette revue Diérèse, qui a consacré 2 gros numéros, les numéros 52 et 53 qui avaient été réunis, et ainsi que le numéro 56 à l'œuvre de Thierry Metz. Ces documents sont aujourd'hui les documents les plus importants que l'on peut trouver pour toutes les recherches sur la vie, l'œuvre de ce poète Thierry Metz qui va incarner peut-être un des tournants de la poésie du XXe siècle. Thierry Metz a été un météore, né en 1956. Il met fin à sa vie en 1997. Il a eu une vie, disons, ordinaire. Manœuvre sur les chantiers, puis maçon. Et enfin, dans les derniers mois de sa vie, il aurait pu travailler à la bibliothèque municipale de Bordeaux. En 1988, Thierry Metz a été victime d'un trauma terrible, puisque sous ses propres yeux, son fils Vincent a été écrasé par une voiture. Il ne s'est véritablement jamais remis, mais comment pourrait-on se remettre d'un tel traumatisme, de cette violence qui lui a été infligée? Il a dépassé totalement tout ce qui se faisait dans la poésie du XXe siècle, qui se cherchait mal, puisque le poème tournait en rond autour de l'écriture. Thierry Metz balayait tout ça, et sa poésie, ses poèmes, sont véritablement les témoins de ce qu'est vivre en poète. Avec Thierry Metz, la poésie se débarrasse de ses oripeaux traditionnels, nous dit Pierre Desnaux. De ses mensonges grandiloquents, elle est ce qui interdit à l'art de n'être que l'art, elle est nue. L'a-t-il invoqué? Cependant, il ne me semble pas. Il n'en a pas moins écrit ce carnet d'Orphée, c'est que vous avez publié dans Diérèse, dit-il, en s'adressant à Isabelle Lévesque. « Je n'ai que ce trajet à bâtir, retrouver la mère et l'enfant, en mourir peut-être. » C'était en 1996, un an avant son suicide. La poésie, il est atroce de penser qu'elle n'a pas sauvé un être aussi pur, mais a-t-elle à nous sauver? Des éditions Pierre Ménard, dont je veux dire ici tout le bien, ce sont ces éditions-là qui sauvent la poésie contemporaine. Les éditions Pierre Ménard ont publié Poésie de Thierry Metz, Poésie de 1978 à 1997, c'est-à-dire quand même véritablement une anthologie importante. Ils ont publié également Le Grainetier, qui était suivi avec Costas Axelos et les problèmes de l'enjeu, et une préface d'Isabelle Lévesque. Et ils viennent actuellement de rééditer un très très beau recueil qui s'appelle Terre, avec des peintures de Véronique Gentil. Alors, voici ce que dit l'éditeur. Prolongeant notre projet de donner à lire des écrits introuvables du poète Thierry Metz, nous rééditons le poème Terre, paru précédemment aux éditions Opale, pleine page en 1997. Cette nouvelle édition s'accompagne de 7 peintures de Véronique Gentil, dont la minéralité offre un écho à la substance du poème. Avec Terre, Thierry Metz se collette avec la matière du monde, son pas arpente les chemins, sa main cherche la voie, qui fera entendre la voix du poète, une mise à nu du silence, une prière. Je vous donne maintenant à écouter des extraits de Terre de Thierry Metz.
Intolérance, destruction, le grand inquisiteur a changé de cravate, mais il est toujours là, avec son œil glacé, et le fer dans la plaie fait toujours aussi mal. L'Inquisition, elle en parle aussi, Lydie Salvaire, dans son livre « Rêver debout ». John Jourdain qui disait « Ma peinture aussi veut poser des questions, mais pas les mêmes. Moulin à images, machine à broyer les barreaux, cris solaires, empreintes, signes qui racontent l'histoire délirante de l'homme, sa folie. Ma peinture, un acte quotidien et fraternel, un travail comme un autre. » John Jourdain, « Je n'ai aucun goût, disait-il, aucune disposition » pour les religions, les anniversaires, les commémorations, les cérémonies, les protocoles, les défilés, etc. J'aime les hommes dans leur simplicité, dans leur quotidien. Et cette simplicité, ce quotidien, et rien n'est plus difficile que de réussir justement cette simplicité, c'est ce qui demande peut-être le plus de sincérité et aussi le plus de maîtrise et le plus de talent. Nous allons le retrouver chez un poète qui est un poète de notre région, des grands poètes de notre région, que j'espère que l'on reconnaîtra sa valeur. Il s'agit de Cédric Le Pinvin, qui publie aux éditions Une un sol trop fertile. Auparavant, je vais faire une annonce rapide d'un livre dont j'ai déjà parlé un petit peu, mais pour lequel j'ai attendu avant de pouvoir véritablement le traiter, tellement ce livre me semble dense et il mérite à lui seul, bien entendu, une émission toute entière. Mais je veux rappeler quand même à nos auditeurs l'existence de ce livre parce que, dans la mesure du possible, qu'ils se le procurent, il s'agit de Christian Moncelet. Christian Moncelet qui publie dans la collection, une collection avec un très joli nom, « Poète trop effacé », des éditions Le Nouvel Athanor, donc c'est une anthologie qui est absolument remarquable, un livre qui vous coûtera 16 euros. Christian Moncelet est né en Algérie, d'une mère auvergnate et d'un père qui, lui, vient de la Basse-Bretagne. Il a vu le jour un 29 février 1944, gagnant ainsi sur le temps, dit Christian Moncelet lui-même, un an tous les 4 ans. Il vit toujours à l'ombre de moustaches de Vercingétorix et des années bissextiles. Marié à une Marguerite, il est aujourd'hui avec ses 3 filles entouré de fleurs. Agrégé de lettres modernes en 1967, docteur du troisième cycle en 1972, docteur d'État grâce à une thèse consacrée à René Guicadou, thèse remarquable, remarquable. J'ai rarement lu quelque chose vraiment d'aussi fort, d'aussi puissant, d'aussi réussi, d'aussi vrai sur René Guicadou. C'est une thèse qu'il a soutenue en 1988 et qui fera un livre magnifique, donc qui a été depuis édité. Moncelet fonda dès 1976 la revue Arpa, revue qui connaît des difficultés, et durant plusieurs décennies, il publia d'ailleurs des poèmes dans cette publication, la revue Arpa. Animé de longue date, dont par un grand poète aussi, deux grands poètes, hein, Gérard Bouchelier, poète dans la spiritualité véritablement, et Jean-Pierre Siméon, dont il est inutile de parler car il est devenu un petit peu le porte-parole de la poésie contemporaine française. La poésie de Christian Moncelet est toujours lisible par tous, même les enfants. Moncelet a été acteur et metteur en scène, c'est un bateleur infatigable qui s'est produit dans des fêtes du livre pour des médiathèques en milieu carcéral. Il demeure main tendue au bouclier du bonheur, c'est son expression, avec notre regretté Michel Baglin. Il ne retient pas ses mots dans sa poche fraternelle. Il avoue aimer trinquer en buvant cul sec. L'alcool des vents, c'était le titre d'un des grands recueils de Michel Baglin. Et cette ébriété est rare, elle est rebelle. Et cette ébriété ne peut que nous plaire, ce que dit son éditeur Jean-Luc Maxence. Christian Moncelet, donc dans Le Nouvel Athanor, dans la collection Poète trop effacé, qui fera l'objet de la prochaine émission. Je voulais quand même vous signaler ce livre pour que vous essayiez de vous le procurer. Et je vais vous lire ce poème en mémoire de Michel Baglin. Michel Baglin qui était né en 1950, qui nous a quittés en 2019. D'une façon prématurée et pour moi qui est un peu incompréhensible. Je n'arrive toujours pas à réaliser que Michel Baglin n'est plus là. Michel Baglin qui a été auteur de nombreux livres, dont L'Alcool des Vents, hein, Le Cherche Midi, De Chair et de Mots, ça c'était au Castor Astral, Michel Baglin, qui a été maintes fois notre invité, bien sûr, ici à l'émission Les Poètes, et que vous pouvez toujours écouter, et ça, il faut saluer quand même la technologie contemporaine, et Claude Bretin pour avoir mis en place ce site Les Poètes, tout attaché, sans accent, point site, pour nous permettre d'écouter maintenant et toujours la voix de Michel Baglin quand il fut l'invité de l'émission Les Poètes. en mémoire de Michel Baglin, de Christian Moncelet. Michel, nous étions frères de condition, selon tes mots propres, assignés à résistance contre la désolante délapidation du trésor verbal. Nous fûmes les tenaces et pacifiques militants d'une écriture de cœur franc pour affronter les effrontés qui balafrent d'ombre le minois charmeur de la vie. C'est un devoir que de bâillonner les maldisants à force de métaphores bien taillées pour la cible. Toi qui sus fondre les pas et les mots dans une même alliance, ah, l'envoûtante marche d'alliance, tu as tissé pour nous un réseau serré de sentes escarpées, de venelles ombreuses, une trame infinie de rêves vicinaux, de désirs de grands chemins, sans oublier tes chemins de verre pour des échappées ferroviaires. Tu as les bons trains sur notre terre, à la traque des grands et petits bonheurs, comme le chasseur magicien qui ramène dans son grand chapeau un bon gibier à partager. Dans un élan de virile tendresse, tu aimais trinquer, cœur contre cœur, avec les compagnons de vie, en buvant cul sec, l'alcool des vents. Cette ébriété rare aide longue en notre âme, comme un grand jour moelleux dans le palais du temps. Ce que nous avons fait du monde a fini par nous retirer du monde, par nous faire croire que le monde est un amas de chiffres, un champ de calcul, une montagne d'informations, ou bien qu'il est une frénésie de travail, une hystérie de consommation, une folie de progrès, ou encore qu'il ne peut être qu'un tissu d'angoisse, un refus d'éternité, une négation de l'intime. La poésie peut résister à cette asphyxie en inscrivant son geste, non pas évidemment dans la tragique épopée collective, pas plus dans le trop simple individualisme, non plus dans la molle subjectivité, mais dans la singularité active. C'est là, dans ce geste radical, qui est en même temps un murmure obstiné face à l'obscurité d'un monde qui se perd, que la beauté peut retrouver cette fissure du ciel, d'où ressurgir entre nous. Voilà ce que dit Alain Duhaut dans son livre « La poésie, le ciel » paru aux éditions Gallimard en 2020. Cette beauté qui peut retrouver cette fissure du ciel d'où ressurgir entre nous, cette beauté, elle est apparue à un des grands poètes de ce XXe siècle, un poète dont il est de notre devoir de parler. Il s'agit de Thierry Metz. Thierry Metz. Les éditions Ménard, excellentes éditions, à qui la poésie contemporaine doit beaucoup, a eu la bonne idée et la mission en définitive de rassembler les poèmes de Thierry Metz. Rappelons que Thierry Metz est né en 1956 et qu'il a disparu en 1997. Donc ces poèmes qui n'avaient jamais paru en livre et pour la majorité qui étaient extraits de la revue Résurrection qu'animait Jean Cussabla ont été publiés dans un livre avec pour titre Poésie 1978-1997 aux éditions Pierre Ménard, excellent livre, donc un grand livre d'ailleurs, d'un format assez important, qui vous coûtera 18 euros. Alors Jean Cussabla, nous l'avons bien connu, nous, les poètes du Sud, puisque il était présent à l'appel de Michel Cozem, quand Michel Cozem a lancé son mouvement, l'Escala Sud. Il était là. Il faut dire qu'à l'époque, c'était certainement le directeur de revue le plus âgé. Et il nous parlait de résurrection. Il venait avec sa femme, là, à l'Escaladieu, dans les Hautes-Pyrénées. du côté de Tarbes, dans nos montagnes, là, c'est dans cette abbaye magnifique de l'Escaladieu. Et c'est lui, Jean Cussablanc, qui dans sa revue Résurrection a repéré Thierry Metz. Thierry Metz qui est peut-être l'exemple même de ce à quoi peut conduire la connaissance de la poésie contemporaine. Parce que c'est la lecture de la poésie contemporaine, la fréquentation de Jean Cussablanc, la lecture donc des revues, et puis des auteurs contemporains, qui a fait de Thierry Metz un des premiers poètes du XXe siècle. Alors Jean Cussablanc a eu, évidemment, le flair de reconnaître immédiatement le poète Thierry Metz, en le publiant, bien sûr, dans sa revue « Résurrection », mais en allant prévenir de cette arrivée messianique, en allant prévenir le lecteur poésie de Gallimard, qui était à l'époque Jean Grosjean, et c'est Gallimard qui va publier le journal d'un manœuvre en 1990 et Lettre à la bien-aimée en 1995. Qui ont eu un franc succès, on peut dire. Alors, les poèmes présentés dans l'anthologie de poésie 1978-1997 d'édition Pierre Ménard courent sur ces deux décennies durant lesquelles l'écriture de Thierry Metz va façonner son œuvre à travers laquelle une voix observe. Il dit qu'il attend quelque chose qui ne viendra pas, et cette voix fait résonner un chant intensément intime. Thierry Metz est né, je vous disais, en 1956, il est né à Paris, mais, et c'est en cela qu'on peut considérer que Thierry Metz est un poète de notre grande Occitanie, puisque il vécut dans le Lot-et-Garonne, à Saint-Romain-le-Noble. Alors il fut réellement manœuvre, le journal de manœuvre, c'est vraiment son journal. Et puis il devint maçon et ouvrier agricole. Et puis de 1995 à 1997, Thierry Metz résida à Bordeaux où il avait trouvé un emploi dans la bibliothèque. Voilà. La vie de Thierry Metz, il faut, pour bien le comprendre, je pense aller voir ses publications. Donc, beaucoup de publications de Thierry Metz chez Pierre Ménard, puisqu'il y a Poésie, dont 1978-1997, mais peu de temps après, des éditions Pierre Ménard, avec une belle préface d'Isabelle Lévesque, a publié Le Grainetier, suivi d'un entretien entre lui et Jean Cussablanc, justement, au sujet d'un philosophe qui s'appelle Kostas Axelos. Kostas Axelos, c'est un philosophe qui est né en 1924, qui est mort récemment, en 2010. C'est donc un philosophe français, mais d'origine grecque, comme son nom l'indique. Et pour Kostas Axelos, la perception du temps est fortement marquée par Héraclite. Vous savez, Héraclite qui liait l'idée du temps à l'idée d'un écoulement sans fin qui était irréversible. Et pour lui, le monde fragmenté nous atteint par bribes. Que peut faire l'homme donc face à l'indicible? Donc c'est cette question qui avait vivifié un petit peu cet entretien qui a été publié en deux parties par la revue Résurrection. C'était en 1981 et 1982. Et puis, il faut, pour avoir une bonne connaissance donc de Thierry Metz, peut-être se procurer deux numéros, un numéro par exemple qui fait les deux, le numéro 52-53 du printemps 2011 de la revue Diérèse. Alors ça c'est un monument tel d'ailleurs que l'on avait fait venir à la maison de l'Occitanie ici à Toulouse, le directeur de la revue Diérèse, hein, Daniel Martinez, pour parler de ce numéro avec Isabelle Lévesque. Et également avec la veuve de Thierry Metz, Françoise Metz. Voilà. Et nous avions donc rendu un hommage à la maison de l'Occitanie, donc à cette époque-là, 2011. Voilà. Voilà, je vais vous lire tout d'abord un petit extrait de cet entretien qui, avec Jean Cussablanc et Thierry Metz, non, qui s'interrogent donc sur un peu sur tout, sur le monde, sur la signification du monde, etc. Jean Cussablanc dit « La totalité des anges engendre les constellations. Faut-il en conclure que ce qui nous concerne est le dépassement ?» Ici pointe le poème. Dépassement des méta, du cosmos et des ismes, et leur perte dans l'errance, l'innommé, innommable, l'impensé, impensable, un abîme où tout se perd et se sauve, toutes les méthodes se révélant inapplicables, sur l'échec de la raison croit le poème. La création, jeu et enjeu. Un monde s'élabore en toutes ses profondeurs, naine et immense. C'est le pays de l'homme immergé par la grande pensée. Mais Axelos me pardonnera si j'ajoute immergé, rythme, souveraine appropriation du mouvement et de son éclosion en écriture créatrice, son et couleur, poème révélation. Alors à ceci, Thierry Metz répond, en ce que j'appellerai sa parole, pour quitter le système Marx, s'élève à une poétique de l'instant élémentaire. Cette méditation est riche du simple hegelien, mais en elle la matière transfuge, se retrouve au cœur du voyage spirituel. Voici la goutte pure promise à la cité, l'homme en elle se recueille, il y dévoile, il y délivre ses sensualités, qui s'éveillent, rameau d'une poétique. Et Jean Cussablanc répond, ce nouveau Marx en étonnerait plus d'un. Pourtant, c'est vrai, en plus d'une page, il transparaît. C'est le vieux, en sage usage de la raison, mais qui attend de l'enfant poète cette révélation suprême de la sagesse, dont le nom est l'amour. Ô Axelos, serait-ce là l'ouvert et sur l'horizon des horizons, le sens premier, dernier du monde. Thierry Metz répond. Axelos s'interroge. Où nous situons-nous pour faire l'expérience et pour parler du monde, du jeu, de l'horizon, de l'ouverture? Hautement poétique, l'utilisation de la vitesse de la lumière, sans doute, assurera la connaissance de l'univers. Si la pensée se tournait vers elle, et en elle vit l'infiniment petit, elle découvrirait peut-être l'ouverture, l'horizon. Quand l'homme aura traversé sa nuit pubertaire, brillera sur lui l'étoile révélée. Voilà. Extraordinaire, hein, cette conclusion de Thierry Metz. Hein, quand l'homme aura traversé sa nuit pubertaire, brillera sur lui l'étoile révélée. Donc on voit qu'il y a là, chez Thierry Metz quand même, une grande espérance. Les éditions Pierre Ménard, excusez-moi, viennent d'éditer Pierre Ménard. Pierre Ménard viennent d'éditer, Terre, peinture de Véronique Gentil, excusez-moi, de ma distraction. Alors, il s'agit d'un recueil qui est réédité, puisque c'est avec ce recueil-là que Thierry Metz a obtenu le prix, un des prix, je ne sais plus lequel, enfin, il a été publié une première fois. Il a eu le prix Froissart pour Dolmen, ça c'était les cahiers Froissart, le prix Voronka sur la table inventée, c'est Jacques Brémond qu'il avait publié en 1989, et le journal de manœuvre et lettres à la bien-aimée, et Terre et l'homme qui penche en 1997, voilà, a été bien effectivement publié par les éditions Pierre Ménard. Alors je vais vous lire, ce livre est magnifique aussi, parce qu'il y a des peintures de Véronique Gentil, des peintures avec un aspect très minéral, qui va très bien à ce recueil qui s'appelle Terre. Terre. Ça en fait un livre magnifique, un véritable livre d'art, un livre d'artiste vraiment. Ce livre vous coûtera 15 euros. Je vais vous lire quelques extraits de Terre. Thierry Metz, Terre. L'écriture parfois comme un vide, comme un seau qu'il ne faut pas renverser. Avec lui, cette charge, je continue. Et j'arrive à franchir ce qui, dans mes pas, est le plus profond. Marcher, n'avoir de lien qu'avec ce mot, hors des villages. Pour tenir, je me suis encordé, et je tiens. J'entre dans la nuit, enfin délivré, dans la nuit, dans le recommencement, difficile de dire où l'on est, dans cette langue, hors du feu. Aussi je n'allume pas, mais comme un potier, j'aperçois l'intérieur du four, son rougeoiement, je m'endors comme du levain, je me réveille, il pleut, le ciel est dur sous ma main, je devrais me lever, mais je reste encore un instant. La pluie ne m'a jamais courbé. Je me lève. Je dois chercher, continuer. Je m'accroche aux nuages. C'est parfois comme si j'avais perdu la parole. Une parole qui me met hors de moi. Je retourne dans mes pas, mais il n'y a plus que l'aile et l'arbre. Le lièvre, ce n'est plus qu'un courant qui me passe dans la voie. Je me retourne pour apercevoir les oiseaux, mais le ciel n'est pas là. C'est le linge, le drap, comme si j'avais suivi une maison, une roue, un autre seau. Bientôt, je retrouve la sauge, le romarin, le promenoir de mes pas. L'envolée du tilleul, le chêne incisif, arbre qui seul décompose la lumière, se partage ce qui, seul, peut être vu. Puis, toujours, encore, je me mêle au chemin ou à la branche, langage de qui passe émondé, dessous, pour entrer dans l'eau ou s'asseoir, pour me montrer de ses mains à vif, un visage aimé. Bâtir le toit de cet instant, s'obstiner jusqu'au ciel, n'est-ce pas comme si encore je marchais plus loin, où je n'entends plus que ce qui est tenu par la corde. J'écoute, je monte, puis c'est comme un calme attendant d'être hissé. Je m'enterre sur le sol dur de n'être plus rien. Confiant jusque là-haut où j'aurais prise, entre mon silence et mon cri, j'entraîne mes pas dans une demeure que je n'attendais pas, si frêle, où ma voix, comme une torche, s'éteint, ne s'entend plus que sur un bûcher. Un silence, un rien, un chat qui s'enroule autour de la main, couvert d'oiseaux, une plante dans un pot, un pichet, toute la mort derrière la vitre. Jour de semaine, sans écriture, ou seulement de cela, les champs, d'autres champs, sans véhicule mais seulement jetés au sol. La journée, c'est le Gange. L'âme est emportée comme une fleur se jette dans cette lumière. Et rien d'autre. Seul reste le champ, près du bois, près du verger. Je ne cherche pas à être ailleurs, ni même si souvent de la main, je touche une herbe plus haute, un mur plus bas. Ici, on me parle, ce n'est jamais le même, c'est toujours quelqu'un d'autre, debout dans la charrette, mais seul les cieux n'a pas dormi, graissé de peur d'aboiement, alors que cela ait lieu, entre le sureau et le genêt, je ne cesse moi de sillonner, de bouger l'enclume, et dès que je suis seul, comme ici, je m'étoile. Je couve, je découvre une voix qui n'a pas dormi. Est-ce une voix de pure perte, un autre pas vers rien? Si le souci d'y tenir m'affolait, je ne resterai pas. Je dormirai dans le foin, je trouverai ma nuit dans le coquelicot, ma litière. Non, j'écris pour recommencer. Le fil est trop fin pour ne l'avoir senti, et je comprends ce qui m'est demandé, captivé par mes mains. Car enfin, par là, je m'exile, j'embrasse ce qui ne reste pas, un risque, une fidélité, pour l'enfant, pour l'oiseau, dont je fais un secret d'écriture. J'ai laissé, je ne suis pas revenu, je n'ai rien touché, sauf la luzerne. Je sors du pré d'une goutte de rosée, comme si je n'avais vu le jour qu'aujourd'hui, à l'instant. C'était l'hiver, l'écluse. Je n'avais droit qu'au clocher, au passant, à cette lampe minuscule mais irréductible, qui tremblait dans sa voix, comme un écrit sur une table bancale. Quel jour sommes-nous? Quelle heure est-il? Ne dites rien, tant que je dessine un visage, je m'octroie l'aube et le crépuscule, la palette, la pelote. Je soigne cet instant comme une souffrance dans un visage, comme un refus, que j'emporte, que je cache, dans un fil, dans une corde, que j'accroche à ce que j'écris, et je retrouve le pré, l'autre linge. ce silence dans le drap que mon corps aura creusé comme dans une rivière, dans la craie. Le linge mouillé du ciel. Ainsi, est-ce entre les deux que j'écris, ou n'est-ce que dans les marges que j'oublie qui je suis, son entêtement? On sent une parole blessée, un silence hors de lui, gravé dans la voix. J'éteins cette lampe, trop proche, sans elle. J'allume autre chose qui peut se voir d'ici, quelques brindilles ou quelques os, mes pas sont brûlants. Je n'ai plus que mes mains, et plus haut, mon visage. Dans les herbes, dans le verger, où mains et visages se réunissent sur la paille, et passant par là, mais bousculé par mes pas, je laisse à mes mots le soin de veiller, de nécessiter une grappe, d'être une main souillée de lumière, visitée d'enfants dans ce soleil. Mais je rêve sous la terre, creusée par la roue. Je ne dispose de rien que de m'être sauvé en arrachant de l'herbe, talus, fossé, de l'avoir vu et dit, j'en ai la voix brute, heurtée, que je consume d'arbre en arbre. Pourtant, j'y reviens. Sur ce chemin brûlé en moi, harcelé de ronces, amoncelé dans les cendres, voix qui me rend sourd mais fouettée d'ortie, comme si je tenais un oiseau mort. Et puis cette pierre, comment lui résister? Si lourde, presque enracinée, comme si, même sans y penser, repu de séparation, le regard ne s'éloignait plus. Ce n'est qu'un chemin, tendu dans ma gorge, un sentier porté par les oiseaux, par la biche. J'enviais la source d'être aussi solitaire, d'être épargné. L'eau, l'autre, ce visage qui ne sera nu que par des sources, que par l'herbe, interrompue par ma voix, je l'accorde pour continuer à mes mots. Vie que j'ai durcie dans le feu, dans mes mains, dans d'autres mains, noires, en ces lieux, en plein jour, nos mains refusées à l'oiseau. Non, je n'ai pas fini, car je n'ai pas commencé. Prendre froid dans ce mot, oui, une des seules paroles qui me soient parvenues. La lune, ou l'absence, avait taché le reste. La nappe, le tympan, un mot était parti d'ici, je ne l'ai pas retrouvé. Comment ne suis-je pas mort sous cet éboulis, l'écriture, nos voix, toutes nos voix, gelées dans un seau. L'homme, vers une croix, il n'est rien d'autre, sauf la mère, qui me hissait dans l'arbre, qui me donnait sa main comme un fruit. Je n'avais qu'elle, mais je vivais, dans le village amoureux, de ses regards, sa petite voix gorgée de lait, ma main autour de son doigt, je me gourmandais de n'avoir que ma faim. Mais des mots vivent. Je marche parce que mon pas est vide, parce qu'il y a cela encore en moi d'elle ou d'une autre, qui me fait vivre à contre-jour, ma voix foulée dans les feuilles. Tant de fois sur ce mot, J'ai cherché ce que voulaient mes pas, un ciel jonché de lumière qui grelottait dans ma voix. J'ai cherché, n'y tenant plus, un peu de terre en haut de l'arbre et du pain. J'ai trouvé un champ, un sentier, ou plutôt un chemin blanc, de quoi me livrer un jour un seul à ce qui n'est rien, ne plus tracer que des lignes et cueillir des fruits pour me percher au plus haut du jour, avoir ce puits où me pencher. Mais même là-haut, je ne perds rien de mon errance, de son encre, liée à ce jour, à ce point, et toute cette page dans la main de l'enfant, de celui qui ne devrait pas écrire, comme un drap déplié sous le petit arbre. Vers lui, j'attire cette branche contre le vent, qu'il ne reste plus que son visage contre le mien, et ce baiser, un adieu, sous les feuilles. L'enfant, qui sont de ma main, connaissant les mots ouverts, j'en ai fait un métier, dans la chaux d'un mur, une réflexion, dans la lumière. Mais plus je disais l'enfant, plus l'homme en demandait. Et je vois, je revois ma voix crevée, ce mur sans lequel rien n'aurait tenu. J'entends la chute d'eau de cet homme qui me menait jusqu'au noir d'être ici simplement, de n'avoir que ses mains. C'est de là que je ramenais l'enfant, où je l'avais trouvé, me regardant, nu, sans rien. Comme une voix qui s'éloigne. Pourtant, il est ici, avec moi. Qu'a-t-il creusé dans mes épaules? Qu'a-t-il rencontré dans ma voix? Pourtant, c'était la nuit, et lui me voyait, pris jusqu'à la ceinture dans le sentier. Il n'y avait que du silence à dire. Alors j'écris, dans le bois, avec ce cri d'oiseau. Où êtes-vous, monsieur? Où êtes-vous? J'écris, comme si je résistais, comme un petit serpent, mais ce sera le seul geste de consolation. Et que voulait le passant? Passer, s'abriter en lui-même. Retrouver l'aile, mais dans les herbes que l'on fauchait, ou n'être que solitaire, ou se retrouver quand tout aura brûlé dans nos paroles. Non, je ne sors pas d'ici, d'être et d'écrire, d'un silence dans les ronces. L'outil m'entraîne, quelquefois détester mes graves, mes soucieux, émaciés dans ma main, me déchaussant comme une pierre pour la jeter dans le livre, sous une parole quelconque que je consolide. Non, je ne suis plus dans le drap, dans la torche, près du soufflet. Mon regard émane du foyer, de ce qui ne peut plus se voir, car le corps seul s'est éteint, consumé d'oiseaux. Quel âme pourrait soupçonner une telle absence, ne concevoir que de l'herbe? Je marche avec ça, suivant le sol et le ciel, pris par le temps. C'est presque ici qu'il faudrait mourir, parmi la scène, entre donner et recevoir, du pain, de l'eau, un baiser, n'être plus porté que par cela d'aimer, de lier son écriture, ses restes, à cet autre, à ce passant, un gosse ou un oiseau. Maison défenestrée. Mes mots ne couvrent qu'un instant qui retourne à la pierre, au chantier. Je n'attise plus ce qu'il faut brûler, chaque planche morte, voilée. Chaque porte de l'instant qui me fait rentrer nulle part, sinon ici, sur le palier d'un de mes pas d'exil. Mais que voulait le passant que j'avais? L'aube croupie et ses gestes perchés au plus haut du silence, attirés pourtant par la table. Mais moi, je ne reviendrai qu'avec l'arbre, greffé à lui, pour être lié plus tard à l'échafaudage. J'ai vécu en maçon dans ma langue. Dans l'âpreté de l'instant, j'étais dans la tige. Encore aujourd'hui, par l'échelle, je hisse mes pas jusqu'aux planches. Je me tiens à l'outil. Là-haut, je ne sais plus. C'est la marge ou la chute. C'est la controverse de chaque geste. S'élever à hauteur de l'autre sans lâcher un mot ou plonger dans la hauteur vers la nuit. Mais cette autre chose entre moi et l'inachevé, cette autre chose, de m'être ainsi enfermé dans ma voix, d'en avoir fait une source d'appauvrissement. Mais non, si peu que je sois dans l'éclaircie, j'avance, je franchis. Qu'importe ces beautés admirables qui ont broyé tant d'hommes et leur vie, et tout ce désert de commencer et de finir, cela ne serait-il plus qu'un art de tuer, d'achever entre l'encre et la chaux. Alors dans ce passage, il y a beaucoup de la posture de création poétique de Thierry Metz. Il parle d'abord de l'errance, et on ne peut que penser aussi à Don Quichotte, le chevalier errant. Il y a du Don Quichotisme chez Thierry Metz complètement. Et également, il y a ce retour à ce qu'a été sa vie matérielle, sa vie ordinaire. Quand il dit « Moi, je ne reviendrai qu'avec l'arbre greffé à lui pour être lié plus tard à l'échafaudage. J'ai vécu en maçon dans ma langue. Dans l'âpreté de l'instant, j'étais dans la tige. Voilà. » Et on retrouve ça. Et puis, cette espèce de retour quand même à l'éblouissement qu'est la création, et la création qui se fait dans la beauté. La beauté, donc on voit ce qu'il est vraiment, promis à l'errance, comme Don Quichotte, promis à l'errance, donc avec cette même utopie qu'est l'errance, cette utopie qu'est l'errance, et cette errance chez lui, c'est aussi l'errance de l'écriture, de m'être ainsi enfermé dans ma voix, dit-il, d'en avoir fait une source d'appauvrissement, mais non. Il a dit non après, non, si peu que je sois dans l'éclaircie, j'avance, je franchis. Voilà. Et il continue par ceci. Mais la voix revient, chargée de foin. Où sommes-nous? Quelle heure est-il? Il n'est que maintenant, et c'est le livre, et je n'ai rien trouvé d'autre. Mais je sème tout ce que je suis, pour qu'il y ait un chemin au croisement de nos voies. Je me tais, J'écoute. Un oiseau s'est posé sur moi. Quelqu'un dans la haie a ouvert un livre malgré les épines. Oui, c'est par là. Dans les fossés, sur les talus, dans l'herbe, l'oiseau, puis un autre oiseau, un nuage, puis un autre nuage. Quelque chose du visage qui est emporté ou aveuglé. J'écris dans ses ronces. J'allume un feu dans chaque mot. Si je n'avais cet au-delà, je ne sortirais pas, je ne volerais aucune feuille. Mais je vis dans l'automne, avec la dernière fleur, jaune, incisée, puis incinérée. En quelle langue aura été ce que nous avons écouté? Une langue presque vraie, couverte de dialectes, où jamais autant ne fut pressentie la mort parlée, annoncée, devant le morceau de pain. Je sais ce qui est dit et qui reste accroché sur la nappe, autour du verre, et trop de voix marchent sur la lune, pleine terre, rien ni personne alentour, sinon l'arbre, le chêne et maigre, l'herbe. Plus loin sur la route, un pont, et encore la terre, il va faire nuit. Je reviens pour la soupe, pour le mot. J'essuie mes mains pour tâcher la sagesse. Ce torchon pour tout, je n'ai plus que mes mains pour me livrer au repas. Puis, ce n'est plus que l'herbe encore, l'odeur fermentée du drap comme une mort ou dormir. Mais le rêve est brusque. Si je sortais sans ma voix, plus rien ne serait lointain. Ensuite, je pourrais, si je veux, ne jamais me réveiller, égorgé par la source. Thierry Metz, Terre, avec les peintures de Véronique Gentil, aux éditions Pierre Ménard, à lire absolument. Le livre coûtera 15 €. Et puis, Le Grenetier, également, aux éditions, toujours Pierre Ménard, avec une préface d'Isabelle Lévesque. Et surtout, l'anthologie, donc, des poésies de Thierry Metz aux éditions Pierre Ménard, 1978-1997. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons la semaine prochaine à 17h.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes. Qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Il marche. marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous. Comme si l'on m'était offert un édifice, sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.